C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
OK, on va parler de la faim. Jeudi dernier, on a reçu une responsable du comptoir chez Émilie. C'est dans le centre-sud. Et cet organisme-là, comme beaucoup d'autres au Québec, comme tous les organismes qui ont des comptoirs alimentaires, ben, il crie famine. Et je vous le dis, c'est un sujet dont je veux parler beaucoup plus souvent à cette émission. La faim. Il y a de plus en plus de gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a l'inflation. Il y a l'inflation alimentaire particulièrement. Il y a la pression aussi de ce que ça coûte pour se loger. Ça finit par avoir une incidence sur ce qu'on peut se permettre de payer à l'épicerie. Et dans la presse ce matin, là, on l'expliquait, là, chiffre à l'appui, il y a des experts qui disaient qu'en 2022, le panier d'épicerie, l'augmentation était de 11 % et ces mêmes experts prévoient que pour le même panier d'épicerie, en 2023, là, une famille va devoir payer 1 000 de plus. Sylvain Charlebois, l'expert en alimentation de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, avait une bonne image dans le papier de Marie-Ève Fournier dans la presse aujourd'hui. Il disait 75 % des gens gèrent l'inflation comme elles le peuvent là, en changeant les habitudes, oui, parfait. Mais pour 25 % des gens, c'est carrément la qualité de vie qui a changé à cause de l'explosion du prix du panier d'épicerie. Donc, pour une portion de nos concitoyens, il n'y a vraiment pas d'accommodement possible. Les miracles à la caisse enregistreuse du Maxi, du IGA, ben pour eux, c'est fini. Des fois, c'est parce que tu as juste un chèque qui rentre, de l'aide sociale ou peut-être un chèque de pension. D'autres fois, tu gagnes pas tant d'argent, puis t'as des ados. Des ados, ça mange beaucoup. Il y a juste plus d'espace pour moyenner, comme on dit. C'est pas, évidemment, tout le monde, mais c'est beaucoup de monde. Le réseau des banques alimentaires du Québec fait des tas de chiffres qui donnent le vertige. Depuis 2019, depuis avant la pandémie, là, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté du tiers, de 33 % par rapport à 2022, juste par rapport à l'année passée. Les demandes d'aide alimentaire dans les comptoirs, c'est 9 % d'augmentation. Et là-dessus, je vais vous faire une devinette. Okay? Au Québec, d'après vous, là, combien de personnes qui font une demande d'aide, d'assistance dans une banque alimentaire au Québec? C'est-tu 500 000? C'est-tu 800 000 Québécois? 1,9 million? 2,2 millions? Mais la réponse, c'est 2,2 millions cette année. L'année passée, c'était 1,9 million de Québécois qui mangeaient pas à leur faim et qui avaient besoin de la charité pour mettre du pain sur la table. Ces organismes-là qui aident nos concitoyens à manger, mais ces organismes crient famine. Il y a des reportages de plus en plus nombreux là-dessus, dépendent des dons individuels, des dons de fondation et de l'aide pour de l'État pour arriver. Et ce qu'on voit, c'est que ben il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de manger et ces comptoirs alimentaires-là ont de moins en moins de denrées à donner, donc on doit rationner. Et dans Le Devoir, la semaine passée, il y avait une statistique intéressante. 62 % des organismes disaient ne pas pouvoir répondre à la demande. Au Québec, on a une ministre de la Solidarité sociale, et c'est Chantal Rouleau, députée et ministre de l'Est de Montréal. Madame Rouleau a déclaré par communiqué, dans des termes assez vagues, je dois le dire, que le gouvernement veut s'assurer que personne ne soit laissé derrière. Il n'y a rien de concret. À ma connaissance, Madame Rouleau n'a pas fait d'entrevue sur ce sujet-là, sur la faim au Québec. On a fait une demande d'entrevue avec la ministre aujourd'hui. On n'a pas eu de réponse. On va espérer pouvoir interviewer la ministre. Je vous parle de tout ça parce que c'est un sujet dont je veux parler plus souvent à cette antenne-là. Je trouve ça très préoccupant. Je trouve ça même scandaleux qu'une société riche comme la nôtre ait tant de gens qui ont faim. Donc, je vous le dis, on va en parler et pas juste parce que Noël s'en vient, parce qu'avec l'inflation, avec la crise du logement, les gens ont faim 12 mois par année. Si vous avez un point de vue là-dessus, si vous avez une expérience personnelle à relater sur la faim au Québec, écrivez-moi. Je veux vous lire, cette fois-ci, pas dans ma messagerie, pas au 98985, à mon adresse courriel patrick@985fm.ca. Et justement, quand je vous dis qu'on va parler de la faim prochainement dans cette émission-là, j'ai deux invités pour qui c'est une réalité, la faim. Jean-Sébastien Patrice est directeur général de la cafétéria communautaire Multicaf dans Côte-des-Neiges. Monsieur Patrice, bonjour.
Bonjour Patrick.
Et aussi, au bout du fil, Lyntia Nicolas, elle a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf depuis environ un an. Elle est au téléphone. Madame Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vais commencer avec Jean-Sébastien Patrice, puis je vous reviens, Madame Nicolas.
OK.
Monsieur parfait. Patrice, parlez-moi de ce que la cafétéria communautaire Multicaf fait dans Côte-des-Neiges.
Ben nous, présentement, on offre des services d'aide alimentaire à 7 % de la population de Côte-des-Neiges. Ça, c'est 7 000 personnes. 7 000 personnes utilisent différents services d'aide alimentaire qu'on a mis en place.
Depuis combien de temps est-ce que Multicaf fait ça?
Multicaf existe depuis 30 ans. Donc, c'est une expérience puis une expertise hyper intéressante. Puis, c'est pas seulement une épicerie solidaire parce que on a, au lieu de remettre des boîtes d'aide alimentaire, on met en place un service d'épicerie pour que les gens choisissent les aliments qu'ils veulent intégrer, qu'ils veulent utiliser. Donc, les gens viennent, font une épicerie d'une valeur de 100 $ pour 5 $. Donc, ils peuvent venir chaque semaine. Oui, c'est ce qu'on a mis en place avec Moisson Montréal puis avec notre financement.
Mais comment vous arrivez si une épicerie de 100 $ et payer 5 $, comment la mécanique du financement fonctionne?
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place des projets agricoles avec les collèges du quartier, avec à l'hippodrome Blue Bonnet, donc et avec des producteurs périurbains. Donc la majeure partie des produits, les fruits et les légumes, sont cultivés soit par des projets qu'on a mis en place localement, ou soit avec les producteurs périurbains. Donc on n'est pas, on souffre pas des hausses de prix par rapport à ces produits-là.
Quand vous me dites, Monsieur Patrice, là, que chez Multicaf, vous aidez 7000 personnes. C'est 7000 personnes par mois, par année, par semaine. Comment ça se décline?
7000 personnes utilisent nos services. Ils peuvent venir une fois par semaine, ils viennent deux fois par semaine, ils peuvent venir à tous les jours à la cafétéria recevoir un repas.
OK, donc il y a 7000 personnes dans Côte-des-Neiges, un des grands quartiers de Montréal, qui, d'une façon ou d'une autre, utilisent vos services.
Exact.
Avant la pandémie, c'était combien de personnes?
1200.
Vous étiez à 1200 avant?
Oui.
Puis là, 7000.
Oui.
Comment vous expliquez ça?
Il y a eu la pandémie, l'inflation par la suite. La pandémie nous a fait connaître beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient de l'insécurité alimentaire, des gens aussi qui avaient des moyens mais qui étaient isolés chez eux comme les personnes âgées. Donc, beaucoup de personnes qui connaissaient pas nécessairement le milieu communautaire ont découvert le milieu communautaire. Malheureusement, nous, on veut pas faire de publicité pour publiciser nos services. L'autre élément, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ressources humaines parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit transitoire. On veut pas que les gens utilisent nos services à vie. On veut que les gens les utilisent puis on veut cibler les raisons pour lesquelles ils ont faim ce mois-ci, cette année-ci. On veut cibler les autres problèmes au-delà de l'aide alimentaire. Et ça, présentement, on a de la difficulté à le faire. Donc, les gens, au lieu d'être dans nos services pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, ben, ils sont dans nos services plus longtemps parce qu'on réussit pas à évaluer correctement l'ensemble des gens qui utilisent nos services.
OK. Vous nous avez recommandé, M. Patrice, Lintia Nicolas, qui est au bout du fil.
Oui.
Elle a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf. Je me tourne vers elle. Madame Nicolas, bonjour encore.
Oui,
allô. OK. Je sais que vous avez pris une pause du travail. Je vous remercie. Et je vous remercie de parler à nos auditeurs. Là. Expliquez-nous d'abord comment vous en êtes venu à avoir recours au service d'aide alimentaire de Multicaf.
Bon, ben en fait, moi, j'ai 26 ans. Je suis une mère célibataire de 2 enfants. Puis ça fait 3 ans que je suis à Multicaf, dans le fond. Puis mon ex, il m'a dit que quand lui est arrivé au Canada enfant, il avait recours à Multicaf avec sa famille et tout ça. Fait que quand on s'est séparés, c'était difficile pour moi de joindre les deux bouts. J'étais en congé de maternité, j'avais pas un très gros revenu. Fait qu'il m'a recommandé Multicaf. C'est juste au coin de chez nous, alors j'y suis allée pour voir qu'est-ce qu'il pouvait en faire, quel genre d'aide qu'il pouvait faire aussi.
OK, racontez-nous une visite typique, Lintia Nicolas, que vous faites chez Multicaf là, pour de l'aide alimentaire.
OK, ben j'arrive, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, ça dépend. J'arrive là avec mon panier, je peux aller à l'épicerie. Fait que je paye 5 $, puis j'ai le droit à comme 30 items, puis c'est varié à chaque semaine. Il y a aussi les intervenants sur place qui sont super gentils, sympathiques, qui essaient d'aider. Il y a aussi le déjeuner gratuit au besoin. On a le dîner aussi à très faible coût, avec des très bonnes portions. C'est ça.
S'il n'y avait pas Multicaf dans votre quartier, dans Côte-des-Neiges, Lintia, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur votre vie et celle de vos enfants?
Ben honnêtement, c'est la première fois que je suis dans une situation comme ça. Je sais que les prix sont en train de monter. Depuis le coronavirus, c'est pas vraiment facile. Surtout pour, tu sais, moi, je suis comme défavorisée. J'ai grandi dans un milieu comme ça. J'ai pas beaucoup de famille. J'ai pas de soutien. Fait que Multicaf, qu'est-ce qui est intéressant, c'est différent comparé à d'autres banques alimentaires qui vont juste te donner une boîte, comme vous dites. Eux, ils vont te faire le repas. Il y a des intervenants sur place. Fait que c'est différent qu'est-ce qu'ils font. Ça va au-delà des autres banques alimentaires normales. Fait que ça m'aide beaucoup, honnêtement, dans mon portefeuille, même si je vais manger là-bas et tout. J'en ai pour mon argent, puis j'ai le ventre rempli. Fait que ça m'aide beaucoup au quotidien.
Et Lintia, je le souligne, je le répète, vous travaillez. Puis même si vous travaillez,
moi,
c'est...
Oui. Moi, dans le fond, j'ai fini mon congé de maternité en septembre. Puis là, j'ai trouvé un emploi il n'y a pas longtemps. proche de chez moi, c'est cool, mais c'est quand même le salaire minimum. J'ai commencé la semaine passée, là.
OK.
Fait que, dans le fond, ben, c'est sûr, là, ça m'aide d'aller à Multicaf, mais c'est parce que les prix sont rendus, t'es en train de monter partout. Il manque des trucs sur les tablettes. Fait que c'est comme du style de joindre les deux bouts. À l'épicerie, là, mon panier, il est pas aussi rempli qu'il y a 5 ans, là.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous allez à l'épicerie, Lintia, en termes d'augmentation des denrées?
Augmentation de quoi?
De ce que vous voulez acheter, là, comme produit alimentaire.
Ben, c'est surtout la viande, les légumes. Ça dépend des saisons aussi. Puis c'est les protéines, puis les légumes, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé. Fait que c'est plus ça, là, qui m'inquiète.
OK. Je sais que vous êtes en pause, Lintia. Vous pouvez rester encore avec nous un peu?
Oui, un peu, oui.
Parfait. OK. Jean-Sébastien, Patrice, je me retourne vers vous. Vous êtes directeur général de la cafétéria communautaire Multicaf. Qui vous finance?
Beaucoup de fondations privées. On a aussi des donateurs, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. On court après tous les bailleurs de fonds possibles et inimaginables. Il y a notre arrondissement, il y a aussi Centraide qui nous donne un bon coup de main. Non pas seulement Centraide avec nous comme ressources, mais ils financent aussi plusieurs autres ressources qui permettent d'avoir un écosystème communautaire pour supporter les gens, parce qu'on réfère beaucoup de gens vers d'autres ressources aussi. Mais à notre mission de base, le gouvernement provincial nous finance moins de 10%.
OK. La part du gouvernement provincial, c'est 10%. Donc, c'est pas un de vos gros bailleurs de fonds.
Moins de 10%. Et non, ce n'est pas un de nos gros bailleurs de fonds.
Combien il vous donne, le gouvernement du Québec?
140 000.
Est-ce que la part du gouvernement du Québec a augmenté depuis un an, depuis deux ans?
2,9%.
Donc, vous êtes passé de 1200 personnes à nourrir.
Ouais.
À 7 000, puis la part du gouvernement du Québec a augmenté de 2 %.
Oui.
Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus à part augmenter, là? Qu'est-ce qui aiderait les gens que vous aidez?
Deux choses. Premièrement, le milieu communautaire mérite d'être financé adéquatement. De un. De deux, salaire minimum garanti. Revenu minimum garanti, pardon. Les gens... Le visage de la pauvreté actuellement à Montréal, ce n'est pas une personne paresseuse qui ne veut pas travailler. C'est des gens qui travaillent, des gens qui vivent des moments difficiles, puis il faut arrêter de stigmatiser ces personnes-là comme étant des personnes bonnes à rien qui veulent juste pas rien faire, puis qui vivent au crochet du gouvernement. Un salaire minimum garanti pour ces personnes-là et un financement adéquat pour l'ensemble des ressources qui sont reconnues.
Lintia, je vais vous donner le mot de la fin. Et quand je dis le mot de la fin, évidemment, F-I-M, qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochains mois?
Je dirais de pouvoir bien manger à chaque jour au quotidien avec mes enfants sans être stressée non plus avec l'argent. Parce que c'est quand même difficile de fonctionner au quotidien quand tu n'as pas mangé à ta faim. Fait que c'est ça que je souhaite pour tout le monde, là, que la nourriture, il y en ait pour tout le monde et que ça soit bien partagé.
Bonne chance pour la suite, Lintia. Merci de nous avoir parlé. Je sais que vous avez pris une pause au travail pour parler aux auditeurs. Je vous laisse retourner travailler puis je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
À la prochaine. Jean-Sébastien, pourquoi c'est Lintia que vous nous avez recommandé comme ça d'interviewer?
Parce que c'est la raison pourquoi je fais ce métier-là. Elle travaille, elle a vécu plein de choses difficiles dans sa vie, puis elle veut toujours aller vers ce qui est mieux, ce qui est... Je sais pas, elle a espoir.
Vous, qu'est-ce que vous faisiez avant de diriger la cafétéria communautaire Multicaf?
Moi, j'étais en relation d'aide, puis je trouvais ça trop difficile d'être en relation d'aide avec les gens. J'arrivais avec, dans mon bagage, j'arrivais à voir mes enfants, puis j'étais pas capable d'être dans le moment présent avec eux. Fait que je me suis reviré de bord, puis je suis retourné aux autres études commerciales en disant, je veux continuer à aider, mais d'une autre façon.
Vous avez fait HEC.
Oui.
Puis là, vous gérez un organisme communautaire.
Oui.
Me trompes-tu en disant que vous pourriez gérer quelque chose de plus payant pour votre portefeuille?
Absolument.
Pourquoi vous le faites pas?
La même raison que j'ai dit. Tout à l'heure, quand je vais arriver chez nous, là, puis je vais voir mes enfants, je suis fier de ce que je fais de ma journée.
Vous trouvez utile?
Oui.
Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Si les gens veulent aider la cafétéria communautaire Multicaf, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Deux choses. Les dons sont acceptés. Multicaf.org et aussi le temps. ils peuvent venir nous voir, nous envoyer un courriel, puis venir nous donner un coup de main. Voir c'est quoi le visage de la pauvreté. Lorsqu'on le voit, il y a moins de jugement, on est plus unis.
Vous avez besoin de bras aussi.
Beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Patrick.
C'était Jean-Sébastien Patrice, directeur général de la cafétéria communautaire Multicaf dans Côte-des-Neiges. Et vous avez entendu aussi Lintia Nicolas qui a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf depuis un an. Multicaf, c'est un organisme parmi des centaines au Québec qui aide des gens qui ont faim et qui, vous l'avez entendu, et on va le dire, on va le répéter à cette antenne, qui ont de plus en plus besoin d'aide. Bon, commentaire sur cette loi, le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Et je vais prendre ça par la lorgnette de ce qu'a fait Carey Price dans les derniers jours. Écoutez, il n'y a pas de doute que Carey Price a été un grand gardien de but. Carey Price, comme citoyen, a le droit de prendre la parole. Et Carey Price a choisi de prendre la parole pour dire à quel point il est en désaccord avec le projet de loi C-21 qui resserre les lois sur les armes à feu. Il a le droit de prendre la parole pour exprimer ses craintes sur un projet de loi du gouvernement du Canada. Il y a d'autres chasseurs qui le font aussi. Carey Price, je le souligne, a publié une photo de lui sur Instagram à la chasse avec une arme longue. Et il a écrit « J'aime ma famille, j'aime mon pays, j'ai mes voisins à cœur, je ne suis pas un criminel ou une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau fait est injuste. J'appuie la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. » Si vous permettez, on va décortiquer tout ça. Et je vais vous surprendre. Moi, je comprends les inquiétudes des chasseurs. Le gouvernement fédéral, pour le projet de loi C-21, est arrivé avec une liste d'armes qui seraient prohibées si C-21 est adopté. Et là-dedans, il y a des armes de chasse. Et c'est ça l'utilité de débattre des projets de loi dans notre société. Ben, ça permet de les améliorer. Et on est dans cette phase-là présentement, non seulement au Parlement, mais dans la société aussi. Donc, j'ai rien contre les inquiétudes des chasseurs. J'ai rien même contre la chasse. Je suis pas un chasseur, mais je connais des gens qui chassent. Ce sont pas des excités des armes à feu. Et j'ai parlé là dans les dernières heures à deux amis chasseurs et qui sont pas, comme on dit à Calgary, des gun nuts, des fous des armes. Et ces gens-là se posent néanmoins des questions. Parce que le gros problème au Canada, quand on parle des armes à feu, ce sont les armes de chasse. C'est une question qui est légitime. Et il y a différents types d'armes, comme il y a différents types d'armes de chasse. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que le document technique là, qui classifie les armes qui deviendraient interdites, ce document-là fait 300 pages. Donc, vous voyez comment la question est complexe. Mais je veux juste dire ça, je comprends les inquiétudes de certains chasseurs. Mon bug, c'est pas que Carey Price, étoile du hockey, dise publiquement ses inquiétudes comme citoyen. Mon bug, c'est que Carey Price fait une passe sur la palette à la Canadian Firearms Coalition. C'est le nom anglais de la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Ce groupe-là, ce sont des extrémistes du port des armes. Ce sont des provocateurs aussi. Pour ces gens-là, l'idéal sont nos voisins du Sud, les Américains. L'idéal pour eux, c'est le droit de porter, d'utiliser le gun que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Pour la Canadian Firearms Coalition, il y a toujours trop de règlements. En tout cas, ces interventions publiques depuis des années, ça va toujours dans ce sens-là. Et quand je vous dis que ce sont des extrémistes, des agitateurs, des provocateurs, la coalition vend de la marchandise, OK? Ils vendent des tasses, des sacs, des chandails à son effigie avec des slogans bien souvent pro-gun. Et récemment, il y a quelques jours, là, la vice-présidente de la Canadian Firearms Coalition, qui s'appelle Tracy Wilson, a envoyé un message sur Twitter pour dire que les membres avaient droit à un rabais de 10 % en commandant de la marchandise du site web. 10 % de rabais à condition d'entrer ce qu'on appelle un code promo dans le formulaire de commande. Le code promo en question, c'est un mot, poly. Comme dans Polytechnique. Comme dans le massacre de Polytechnique. Le contexte, il est très, très simple. C'est que pour les groupes pro-armes à feu au Canada, les gens de Poly se souviennent, les activistes qui sont issus des familles de victimes, qui sont souvent des victimes du massacre du 6 décembre, ce sont des gens dont on peut se moquer. Ce sont des gens dont on peut rire. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc, Poly, c'est un peu le punch d'une joke dans la communauté des extrémistes des armes à feu au Canada. Juste rappeler que Poly, 14 femmes qui ont été massacrées, c'est encore le pire féminicide au Canada. Un exemple de cette haine face à Poly, ben il y a l'ineffable Guy Morin, qui est le Québécois, qui est probablement l'activiste le plus connu pro-gun au Québec. Rappelez-vous, M. Morin, il y a quelques années, et toujours dans l'esprit des bonnes blagues sur Poly, avait décidé d'organiser une manifestation pro-gun, pas n'importe où, à la place du 6 décembre à Montréal. Tu sais, un gars plein de jugement. Monsieur Morin, là, récemment, à propos de la controverse sur le code promo Poly, lui, il a dit que la Coalition canadienne des armes à feu aurait dû donner 25 % de rabais à ceux qui utilisent le code Poly. Un gars ben, ben funny, Guy Morin. Ce que je veux dire, c'est que ben souvent, les groupes qui défendent le droit de porter des armes à feu au Québec, au Canada, ne se distinguent pas par leur grand jugement, ni par leur contribution intelligente au débat public. Il y a Mme Wilson, M. Morin, qui sont des exemples splendides de ça. Carey Price, en faisant une passe sur la palette à la Canadian Firearms Coalition, ben c'est à une organisation qui rêve d'une législation made in USA pour le contrôle des armes au Canada qui l'a fait une passe sur la palette. Je le répète, moi, j'ai rien contre la chasse. J'entends les préoccupations des chasseurs, mais ces préoccupations-là, bien souvent, pas toujours, bien souvent, sont relayées par des gens comme Guy Morin. Et désolé, moi, quand Guy Morin parle, j'écoute plus. Et il y a plein de monde qui se ferme les oreilles quand des gens comme Guy Morin et Tracy Wilson parlent. Ils veulent pas écouter. C'est ça qui arrive quand des excessifs prennent la parole en public. Je pense que le gros problème de la criminalité par arme à feu au Canada, ça vient des armes qui sont importées illégalement des États-Unis et les autorités, faut le souligner, je l'applaudis, s'attaquent à ça par ailleurs avec beaucoup plus de vigueur ces derniers temps. Disons aussi que c'est pas évident quand ton voisin au sud se contresac des lois sur le contrôle des armes à feu et qu'on partage avec ce voisin-là la plus grande frontière non protégée au monde. Je pense que les armes qui permettent de commettre des massacres de masse, comme celui du Collège Dawson en 2006 à Montréal, ça devrait pas être légal. Si c'est un chargeur qui contient plus que 4-5 balles, désolé, moi, j'ai un problème avec ça. Si les armes que t'as sur toi, que tu utilises pour aller tirer, faire l'activité, le loisir du tir sur cible, par exemple, c'est le genre d'armes qui sert à repousser les premiers patrouilleurs de police qui interviennent, j'ai un problème avec ça. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça aller tirer sur des cibles. Personnellement, c'est mon opinion et j'ai le droit de la donner comme n'importe quel autre citoyen. Ce genre de loisir-là qui ne produit pas des tueurs de masse, c'est vrai, mais quand il y en a un de ces adeptes-là qui vire sur le top et qui prend son arme comme ça pour entrer dans un lieu public et tirer dans le tas, c'est un prix que je considère comme citoyen trop lourd à porter pour le droit d'aller tirer sur des cibles. Qu'on en débatte, c'est parfait. C'est à ça que servent ces projets de loi-là et c'est pour ça qu'on est dans une démocratie. Je reviens à Carey Price. Samedi, Carey Price a donné son appui à une organisation qui trouve ça bien drôle de s'attaquer à Poly, de faire du sarcasme sur le massacre de Polytechnique. Or, on a appris quoi aujourd'hui, deux jours après sa sortie sur Instagram? Qu'est-ce qu'on a appris par la voix du Canadien de Montréal? On a appris que Carey Price, avant de faire sa sortie de samedi, ne savait pas ce qui s'était passé à Polytechnique en 1989. Poly, c'est juste le plus épouvantable féminicide au Canada dans l'ère moderne. C'est une des plus grandes tueries de masse par arme à feu dans l'histoire de ce pays-là. C'est le point de départ de multiples projets de loi, multiples conscientisations aussi sur le nécessaire contrôle de certaines armes dans ce pays-là. Poly, c'est entré dans l'histoire avec un grand H pour plein de raisons. Poly, c'est dans le domaine du sacré. Je m'excuse, si vous faites des jokes, sur Poly, vous êtes un imbécile. Carey Price, il savait pas c'est quoi Poly. C'est ce que le Canadien de Montréal nous apprend aujourd'hui. T'es pas au courant. C'est jamais arrivé sur son radar. Il a le droit de donner son opinion, Carey Price, comme tous les Canadiens. Moi, j'ai le droit de dire que commenter une mesure de contrôle des armes à feu au Canada, quand on est une personnalité publique, quand on utilise sa tribune de personnalité publique, sans savoir c'est quoi Poly, on peut dire, n'en déplaise à Carey Price et à ses fans, on peut dire que c'est un manque de culture générale de calibre olympique.
Et la première étoile, Carey Price!
On OK, très bien. On le sait, le cyberharcèlement, c'est un enjeu, c'est un problème qui est de plus en plus présent dans la société. Et on peut plus dire, maintenant que l'Internet fait à ce point partie de nos vies, on peut plus dire que c'est juste un problème virtuel. On le sait, la haine peut parfois commencer en ligne et déborder hors des cadres d'Internet. Et aujourd'hui, les partis d'opposition à Québec ont demandé au gouvernement là, de mettre en place des actions concrète pour lutter contre la cyberviolence, contre le cyberharcèlement, tout ça dans la foulée de la sortie du film « Je vous salue, salope » des documentaristes Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. On va tout de suite parler avec Rouba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire. Madame Gazal, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, il y a donc cette pétition signée par 24 000 personnes qui a été déposée. Écoutez, est-ce que l'État peut faire plus et mieux, et si oui, comment pour contrer le cyberharcèlement?
Ah oui, ça c'est sûr qu'il peut faire plus. Vous savez, ça fait plusieurs fois que même des politiciens parlent de ça, du fait qu'ils reçoivent, et des politiciennes aussi beaucoup qui reçoivent toutes sortes de messages haineux sur les réseaux sociaux. Ça fait en sorte qu'il y en a qui veulent même pas prendre la parole ou aller en politique. Et il y a des gens de tous les milieux aussi qui en reçoivent sur les réseaux sociaux. Et c'est des les impacts de cette violence sur les médias sociaux, ben c'est des impacts réels, c'est pas juste des impacts virtuels. Maintenant, moi, je me rappelle, en 2019, Christine Labrie, ma collègue, la députée de Sherbrooke, avait nommé les messages que nous, les femmes du caucus de Québec solidaire, on recevait. Moi, ça a été facile. Elle nous a demandé de lui en donner. Je vais sur Twitter et je lui envoie ça. Elle les a lus à l'Assemblée nationale au Salon Bleu, des propos non parlementaires, injurieux, horrifiants. Et tous les députés de toutes les formations politiques étaient horripilés par ça. Et tout le monde dénonçait ça. Il disait que c'était inacceptable. Maintenant, ça c'est en 2019, et depuis ce temps-là, ben rien ne s'est passé, même si on a beaucoup, beaucoup parlé au début de la campagne électorale de violence aussi que reçoivent les élus. Mais pas juste les élus, hein, c'est tout le monde. Ceux et celles qui veulent prendre la parole publiquement. Maintenant, la pétition qui a été déposée ce matin à l'Assemblée nationale par les réalisatrices du film « Je vous salue, salope » que j'invite tout le monde à voir. Plusieurs propositions, deux en fait. La première, c'est de revoir la formation des policiers, de rendre obligatoire une formation pour les policiers sur les cyberviolence. Il y avait un papier dans la presse que vous avez écrit avec Madame Laurence Graton, qui, elle, est une protagoniste du film, qui parlait d'un harceleur il y a plusieurs années qui l'a harcelée pendant 5 ans. Elle a vécu avec la peur et tout ça se passait en ligne. Finalement, cette personne a été condamnée et là, elle est revenue après qu'il y a eu le film. Elle a été à Tout le monde en parle. Elle était dans le film et donc ça s'est sorti médiatiquement récemment. Et là, ce harceleur-là est revenu sur ses réseaux sociaux.
Je vais juste mettre un bémol à ce que vous dites. On ne sait pas si c'est la même personne. C'est le message qu'elle a reçu, le message de menace qu'elle a reçu, disons, est de la même eau. Mais il n'y a pas moyen de savoir, évidemment, si c'est la même personne. Le problème, c'est que quand elle s'est présentée à la police de Terrebonne, par deux fois, on ne l'a pas prise au sérieux.
C'est exactement, puis c'est pour ça que la pétition demande qu'il y ait une formation pour que les policiers, tous les policiers, soient en exercice et ceux qui sont en train d'être formés pour le devenir, reçoivent une formation. Et ça, c'est entre les mains du gouvernement. Le gouvernement peut faire quelque chose pour ça. Après ça, il faut mettre au pas aussi les Facebook, Twitter de ce monde. C'est pas facile. Le Québec ne peut pas le faire. Mais il faut faire pression sur Ottawa. Maintenant aussi, il peut y avoir de la sensibilisation parce que tout le monde aujourd'hui, surtout les jeunes en plus, de plus en plus, en fait, il n'y a pas un seul jeune, je pense, qui n'est pas sur un réseau social, TikTok, on les connaît tous. Ben, il faut aussi les sensibiliser à cette cyberviolence et ça passe par le système de l'éducation. C'est pas dans la pétition, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut pas juste dénoncer, faut aussi qu'il y ait des actions et c'était ça le message qu'on a envoyé au gouvernement, surtout à la veille de la commémoration de la tuerie de Polytechnique. Demain, c'est le 6 décembre, il va y avoir des discours solennels, des événements de commémoration de violences contre les femmes. Il faut dénoncer toutes les violences, la violence physique, psychologique, sexuelle, mais aussi les violences sur Internet. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est ce qu'on demandait ce matin.
OK, je vous amène sur un autre terrain. Est-ce que j'ai vu que vous allez donner le 400 $ que l'État va vous envoyer ou vous envoyer, Mme la députée Gazal, là, à un organisme dans votre comté?
Oui. Écoutez, hier soir, j'ai regardé mon compte, ça m'arrive des fois, juste pour voir. Et là, je vois que j'ai un 400 $. Je pensais que c'était une erreur, d'où ça venait. Et là, je me suis rappelée. Je suis allée sur le site, mon compte de Revenu Québec, et j'avais un 400 $ du gouvernement de la CAQ à cause de l'inflation. Je savais que j'allais probablement le recevoir parce que je rentrais dans le critère, mais on dirait que de le recevoir comme ça dans mon compte, ça m'a frappé. Et là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je n'en ai pas besoin. Alors que les organismes en sécurité alimentaire crient famine, il y a des gens qui travaillent à temps plein sur le salaire minimum et qui n'arrivent pas à se nourrir, des femmes enceintes qui se privent. Et là, je vais le donner à la CDC, c'est la Corporation de développement, c'est comme la maison du quartier qui regroupe plusieurs organismes dans mon comté sur le plateau Mont-Royal, je vais la donner parce que ça n'a pas de bon sens de donner l'argent à des gens, des députés comme moi. Ça n'a pas de bon sens.
Très bien, merci d'avoir été avec nous, Mme Gazal. Bonne journée.
Merci à vous.
Salut, c'était Rouba Gazal, député solidaire pour le comté de Mercier. Très heureux d'accueillir en studio Martin Lafleur. En septembre 2020, Guy Lafleur avait été nommé ambassadeur du CHUM pour la recherche sur le cancer. Aujourd'hui, son fils Martin prend la relève. Guy Lafleur est décédé le 22 avril dernier. Son fils Martin poursuit l'œuvre de la lutte contre le cancer. Salut Martin.
Bonjour.
Pourquoi c'est important pour vous?
Ben c'est important parce que mon père, cette cause-là, ça lui tenait extrêmement à cœur. Je veux dire, le fait d'aider des gens qui souffrent de la même maladie que lui a souffert, ça le rendait heureux. Je veux dire, ça a tout le temps été quelqu'un d'extrêmement généreux avec son temps pour aider les gens en souffrance. Donc, je veux dire, l'opportunité de faire partie de ce fonds-là puis de continuer ça, pour moi, c'est incroyable.
Quand vous dites ça, que c'était important pour lui, moi, un des plus vieux souvenirs de Guy Lafleur que j'ai, ça remonte à mon enfance, un jeune avait été poignardé, puis il l'avait trouvé parce que le jeune aimait Guy Lafleur. Je pense même qu'il avait peut-être son chandail. Il l'avait retrouvé, il avait donné un nouveau chandail. Autre souvenir, il est allé dans un camp, je pense que c'est le camp Papillon, pour les enfants handicapés. Donc, c'est pas d'hier qu'il prêtait son nom à des œuvres, à des causes importantes.
Exactement. Puis même moi, quand j'étais plus jeune, je participais aussi à des événements, là, soit des visites dans des hôpitaux pour voir des enfants malades. On a quand même fait plusieurs événements là, où ce que nous, moi et mon frère, on était présents pour justement voir comment ça se passait puis voir un peu la vraie vie. Là.
Martin, je le souligne, là, les gens qui voudraient faire un don en ligne là, pour le centre de recherche du CHUM, là, pour la recherche contre le cancer, via le fonds Guy Lafleur, ben on peut aller jedonneenligne.org, Fondation du CHUM, juste taper là, Fondation du CHUM, je pense que c'est assez évident à trouver. Sinon, immédiatement, si vous voulez faire un don, ben vous pouvez texter le mot Guy au 41 010 sur votre téléphone cellulaire et c'est un don rapide de 10 $. Martin, quand Guy Lafleur était encore parmi nous, il trouvait ça important de prêter son nom comme ça à la recherche. Parlez-moi un peu justement du CHUM et de l'importance du CHUM dans la recherche contre le cancer.
Ben encore une fois, le fonds Guy Lafleur vient en aide à ça, à justement supporter tous les chercheurs en leur donnant tous les moyens nécessaires pour vraiment avancer la recherche sur le cancer. Puis aussi, entre autres, le fonds Guy Lafleur dédie une bonne partie des dons à justement amener une médecine personnalisée pour prendre en charge les patients du CHUM, pour justement leur donner des meilleures chances à une guérison et aussi beaucoup moins d'effets secondaires.
C'est ça, parce que la prochaine frontière, je pense, de la recherche contre le cancer, Martin Lafleur, là, c'est d'avoir les traitements personnalisés, ciblés. Vous avez tel type de cancer du poumon, tel type de cancer des intestins, ben on va vous donner tel type de traitement. C'est la recherche au CHUM capitalise là-dessus, là.
Exactement. Puis aussi, on sait tous qu'il y a autant de cancers que de patients, puis certains effets, je veux dire, certains traitements ne fonctionneront pas nécessairement sur tous les patients atteints d'un certain cancer. Donc, c'est pour ça que la recherche est extrêmement importante. C'est ça qui répond un peu à certaines questions des chercheurs pour voir pourquoi certains traitements fonctionnent et d'autres fonctionnent pas sur les patients avec le même type de cancer.
Donc, il y a la recherche, mais il y a aussi les traitements. Votre père a été bien pris en charge au CHUM là, quand il était malade. Des traités.
Exactement. Il a été très bien pris en charge par le CHUM. Et puis, encore une fois, il a donné sa vie à son public, puis il a aussi donné sa vie au CHUM pour justement faire avancer les recherches en essayant des traitements expérimentaux pour justement essayer de guérir de cette maladie-là.
Martin Lafleur, quand votre père était encore vivant et qu'il était malade, est-ce que vous avez parlé justement de la pérennité de la suite des choses pour le fonds Guy Lafleur au CHUM?
Non, pas du tout. J'ai comme eu un certain appel qui m'est venu là, directement au travers moi de me dire de faire quelque chose avec ça. Je trouvais que c'était tellement important d'amener une continuité à ce fonds-là. Encore une fois, mon père, ça lui tenait à cœur. Puis en m'occupant de ce fonds-là qui me tient à cœur aussi énormément, ça me permet de rester proche de mon père puis d'aider des gens pour qui souffrent, aider des familles aussi qui souffrent parce qu'encore une fois, les proches ont mal quand ils apprennent cette nouvelle-là. Mm. Donc, c'est quelque chose que je suis extrêmement fier d'avoir cette opportunité-là.
C'est intéressant les mots que vous utilisez, Martin Lafleur. Vous dites, c'est une façon pour moi de rester proche de mon père.
Oui, absolument. Écoute, chaque personne vit son deuil différemment. Puis moi, en me donnant à différents événements à la cause du fonds Guy Lafleur, ça me permet de tout le temps le garder près de moi. Puis c'est des événements qui me font penser à lui. Je veux dire, il y a pas un jour que je me lève pas que je pense pas à lui. Donc on essaie de rendre ça le plus positif possible en faisant des événements qui rendent les gens heureux. Oui,
dans un volet plus personnel, les gens sur la messagerie nous posent la question, puis je me pose ça aussi. Comment va votre mère et comment la famille se porte après tout ça? Parce que je sais que il y a eu la tristesse, le deuil, et en plus, il fallait que vous le partagiez avec nous, l'ensemble du public. Comment ça va maintenant?
Ma mère, ça va bien. La famille, ça va bien. Tiens, encore une fois, pour ma mère, ça reste que c'est difficile. Je veux dire, c'est quasiment 50 ans de vie commune qu'ils ont eu ensemble. Tu sais, je veux dire, elle a tout le temps pris soin de notre famille, de moi, mon frère, mon père. On dirait qu'elle s'est un peu perdue là-dedans en jamais prenant soin d'elle-même. Donc là, il faut qu'elle réapprenne à prendre soin d'elle et aussi de commencer une nouvelle vie sans mon père, parce que mon père, c'est comme le wagon d'en avant d'un train. Mm-hmm. Puis par la suite, nous, on suit en arrière. Donc encore une fois, c'est pour elle, ça va prendre du temps, mais elle est bien entourée.
Il y a différents projets qui sont encore en cours. Tu sais, je pense entre autres aux annonces qu'on a eues dernièrement pour le Cirque du Soleil, pour le spectacle. Il y a un film aussi qui est en préparation. Est-ce que tout ça va comme l'affecter davantage, tu sais, de revoir une partie de sa vie ou de revoir, d'entendre encore parler de projets comme ça qu'on met de l'avant? Est-ce que c'est difficile pour elle?
Ça n'est pas difficile parce qu'encore une fois, je veux dire, on a été habitué à ça, hein, de tout le temps partager mon père, puis de faire des belles œuvres comme ça, une association avec le Cirque du Soleil ou de faire un film sur notre vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tout ça que ça l'arrive.
Toi, t'es comme le gardien de ça aussi? Mmh.
J'essaye, hein. Tu sais, j'essaye de...
Petite pression?
Ouais, c'est ça. J'essaye de faire du mieux que je peux pour justement que tout se fasse bien puis que...
Tout le monde soit d'accord avec ce qu'on voit.
Puis à toutes les fois que quelqu'un fait quelque chose sur mon père ou notre famille, que ça soit fait avec classe puis à l'image de mon père.
Mais Martin, juste sur la question du film... Je veux dire, si on était aux États-Unis, je pense qu'il y aurait déjà un film, plusieurs films qui auraient été faits sur Guy Lafleur parce que c'est un destin qui est incroyable. Mais là, vous êtes le gardien, là, on va dire ça comme ça. Comment on fait un film intéressant quand on est le fils? Parce que votre père a eu une vie rock'n'roll aussi. Ouais. Faut que le film soit intéressant, Mais vous, vous êtes là, puis vous scrutez ça, vous voulez pas... Il y a des affaires que vous voulez garder pour vous, j'imagine.
Écoute, encore une fois, nous, on a un droit de regard sur le film, bien évidemment. Puis encore une fois, nous, on sait qu'il y a certaines choses qui vont peut-être être un petit peu plus risquées un peu. Mm-hmm. Mais par contre, il y a tout le temps de manière de bien dire les choses puis de bien expliquer certaines situations. Ouais. Donc encore une fois, on va y aller étape par étape puis on va juste s'assurer que tout est à l'image de mon père et de notre famille.
Puis ta vie de tous les jours, parce que c'est particulier, oui, t'es le gardien de la mémoire, mais ça fait aussi, je parlais de deuil tout à l'heure. Toi, c'est un deuil permanent, parce que tous les jours, quand tu te lèves, tu défends encore ton père. Moi, quand mon père va partir, ben, je vais avoir énormément de peine, mais je veux dire, deux ans plus tard, je ne serai pas à la tête.
Tu ne seras pas dans la gestion de sa mémoire.
Ça ne t'a quand même pas comme Martin toujours évident. Là.
Ben, encore une fois, c'est quelque chose que j'apprécie. Je veux dire, d'avoir l'opportunité d'avoir encore des liens avec mon père indirectement. Mm-hmm.
Est-ce que tu es encore un peu en vie?
Exactement. C'est de même que je le vois. Puis encore une fois, c'est des beaux projets. Là. Tu sais, c'est des choses qui sont positives. Puis on a tous besoin d'un peu de positif ces jours-là.
C'est vrai.
Oui, c'est bien dit.
C'est vrai.
Martin, les gens qui veulent donner pour la recherche via le fonds Guy Lafleur, ben on va sur le site de la Fondation du CHUM. Et là, c'est assez évident là, la démarche pour donner. Sinon, si on veut faire un don rapide immédiatement en nous écoutant, ben on peut texter le mot Guy au 41 010, c'est bien ça?
Exactement. Puis je spécifie aussi qu'on peut aller directement. Il y a un site qui s'appelle Fonds avec un S, guylafleur.com. Puis directement avec ce lien-là, on est en mesure là, d'aller faire un don.
C'est dit. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio.
Merci.
C'était
merci
Martin Lafleur.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.